La revue de presse, bonjour Claude Askolovitch.
Bonjour Nicolas.
Une histoire de fast-food et de résistance.
Ouais, la résistance de Deluce, commune de l'île d'Oléron, qui ne veut pas d'un McDonald's, mais qui va l'avoir quand même, sous peine de payer une astreinte quotidienne de 300 euros par jour si la mairie s'obstine à refuser un permis de construire à la multinationale du hamburger. Réaction de Grégory Gendre, le maire de Deluce, c'est dans Sud-Ouest. Le symbole serait terrible de voir notre île devenir la première à être colonisée par McDo. Et Sud-Ouest raconte avec tendresse et ironie aussi cette bataille où les Illois se déchirent. D'un côté, les pro-McDo qui surnomment le maire Kim Jong-Gendre, parce qu'en Corée du Nord, non plus, il n'y a pas de McDo. Et ils espèrent, eux, qu'avec le restaurant, ils auront 40 emplois en CDI. En face, ceux qui veulent préserver Oléron d'une insulte aux valeurs de l'île. Oléron, c'est l'océan, les dunes et l'ostréiculture. Ce n'est pas une histoire locale, non, c'est une histoire universelle sur le dilemme entre la tradition et le vaste monde qui nous tente et nous menace. Le premier McDo est à une heure de route par le pont. Les jeunes s'ennuient, ils font du scooter. Ils n'ont pas 20 euros pour faire comme les vieux et se payer 6 huîtres et un verre de blanc. Mais l'ailleurs est menaçant. On imagine déjà les plages souillées par les emballages des hamburgers. Quelque chose affleure aussi de pas très net. Le problème ne vient pas de McDo, mais de ses clients. Mais par-dessus tout, il y a la peur de ne plus être. Oléron, c'est aussi cette île où des restaurateurs refusent de servir des frites avec les moules aux touristes déconfits. Parce que voyez-vous, dans la tradition oléronaise, on ne peut pas associer un produit cuit en marinière avec un autre frit. Et là, la tendresse nous prend devant ce passé fragile.
Régis Debray, vous rejoignez ce front anti-McDo?
Ou le refus des frites avec les moules?
Non, je suis plutôt frites-moules. Quant au McDo, il arrivera en Corée du Nord comme ailleurs.
Claude, la suite de cette revue de presse.
Pendant ce temps-là, près d'Armentières, c'est dans le Nord, c'est raconté dans La Voix du Nord, un petit village qui s'appelle Frelinghem frémit encore d'avoir résisté à ce qu'il considère être une autre invasion. Le week-end dernier, les élus, les agriculteurs ont empêché des gens du voyage, ce sont des Français, rappelons-le, de s'installer sur le terrain de football local. Constat ou impression de La Voix du Nord, les installations de gens du voyage dans la région sont plus nombreuses et plus imposantes et les réactions des communes sont plus dures, comme si les élus et les habitants en avaient assez. C'est la une de La Voix du Nord et cela fait partie de ces petits signaux faibles d'un pays agressé que ces médias exposent quand même au vaste monde.
Et l'Allemagne, Claude, prend encore évidemment de la place dans les journaux.
Oui, mais est-ce que c'est le vaste monde? L'Allemagne, elle vote après le week-end et c'est comme si c'était nous. On en parle beaucoup plus que de nos sénatoriales. On a tellement lu depuis des jours qu'on s'étonne de s'étonner encore. Alors on peut aller dans les Échos magazines voir de très belles photos de la beauté de l'Allemagne dans ses eaux, la Baltique, un fleuve, un lac, et on a plus envie de s'attarder dans cette paix que de lire une nouvelle fois la saga du patron de Mercedes. On peut compatir, c'est dans le Figaro, au dilemme des Turcs d'Allemagne. Le président Erdogan leur demande de boycotter l'élection de leur nouveau pays, et on est aussi saisi par les mots de Heinz Bude. C'est un professeur de sociologie de l'université de Kassel qui donne aux Échos une interview très forte sur l'âme allemande. Je cite, les deux tiers des membres de l'AFD, le parti d'extrême droite, sont des nazis. Il dit nazis. Et là, on s'interroge sur ce pays heureux qui est ce pays qui nous détermine. Le Point nous submerge dans un très bon, très gros dossier. La France-Allemagne est là. Pas notre avenir à Dieu, notre évidence, tout y concourt. L'entente des gouvernants, le retour des classes bilingues et même le goût de Macron pour le philosophe Habermas. Es muss sein, s'interrogeait Beethoven en marge d'un quatuor à cordes. Es muss sein, cela doit être. Cela doit être, on le ressent aussi en lisant les Échos qui surjouent le rapprochement possible entre Siemens et Alstom, écarté par le gouvernement français il y a 3 ans. Mais le gouvernement a changé et changé d'avis. On parle aussi, grand fauve de l'économie en manœuvre, des rapprochements possibles de la Commerzbank avec la BNP. Du coup, la sensation de l'inéluctable se double d'une dépossession. Que décidons-nous, nous, électeurs ou lecteurs? L'Est républicain raconte Belfort, fief d'Alstom et ses salariés inquiets. Il y a un an, le PDG d'Alstom leur avait promis un investissement de 30 millions d'euros pour construire des locomotives hybrides. L'argent n'est jamais venu. Faute de commandes, là-dessus, il y a la rumeur Alstom qui fait monter, la rumeur Siemens qui fait monter l'action d'Alstom. Mais vu de l'usine, ce n'est pas grand-chose. Pour se consoler et rattraper l'ambiance, Le Point, toujours malin, fait de la French Pride au détour de son dossier France-Allemagne. On ne peut pas tout citer, mais ça booste. Les Allemands aussi respectent les performances françaises. À côté du TGV, l'ICE fait pas le figure. Le réseau autoroutier est presque 2 fois plus important en France. Internet est plus développé. Les Allemands envient notre natalité. dans Libération, on apprend que la Volksbühne, c'est le temple berlinois de la danse, est bouleversée par la mondialisation. Mais c'est nous la mondialisation. Un directeur belge, Chris Dercon, et un chorégraphe français, Boris Charmatz. Allez, Eschmeck, finalement, ça va le faire.
On évoque Liliane Bettencourt aussi dans les journaux.
Oui, énormément, mais l'article le plus juste dans sa concision, c'est celui de l'Opinion, qui renvoie simplement la disparition de cette vieille dame riche au deuil de son entreprise. Vous savez, il y a des moments, quand les médias font très long, il faut rester très simple. Ainsi, à propos de Florian Philippot qui quitte le Front National, on peut simplement aller voir l'Est Républicain, page Franche-Comté, qui raconte la saga de l'eurodéputée Sophie Montel, 48 ans, dont 32 parties, elle le quitte avec son ami Philippot. Et le journal expose ses regrets. Quels sont-ils ? Une sortie au conseil municipal de Besançon sur l'évidente inégalité des races. Il s'agissait de soutenir Jean-Marie Le Pen. Un flirt avec une association païenne. Et puis le travail d'assistante d'un notable du FN qui s'appelait Roland Goguillot-Gaucher, qui avait été collaborateur et qui incitait à l'époque les nazis à fusiller Utile. Ce sont les regrets de Sophie Montel. Ce fut, cela reste, ce fut le Front National. Enfin, une dernière petite chose, on l'a lu dans La Voix du Nord, il s'agit de sport, pas du marathon de Berlin, non, plus petit enjeu. L'équipe du Saint-Omer Cricket Club a remporté le premier championnat des Hauts-de-France. Cette équipe a été montée avec de jeunes réfugiés qui s'entraînaient régulièrement au jardin public. Les trois quarts des joueurs sont des Afghans, le quart restant est pakistanais. Il y a aussi un joueur du CRU dans l'équipe. Voilà, on s'en sortira. Dans Les Inrecuptibles, l'écrivain magnifique Jonathan Safran Foer nous le dit, il est important de croire.
Claude Ascolovitch, merci. La revue de presse.